Pour la deuxième année consécutive, l'association des parents d'élèves de l'école Marc-Arian-Papazian organise un bric-à-brac les samedis 21 et dimanche 22 mai 2005 dans la salle Galbis Manoukian située 42 rue d'Arménie, 69 003 Lyon, de 10h à 18h sans interruption.
La société Pardieu Électricité cherche un aide comptable confirmé à temps partiel. Pour tout renseignement, appelez le 04 78 24 43 40. France Arménie, ça y est, il est devenu bimensuel. Que de chemin parcouru depuis avril 1982. Tous les 15 jours, vous allez découvrir sa nouvelle formule qui colle à l'actualité. Être mieux et plus vite informé, c'est avec France Arménie, ce lien précieux entre tous les Arméniens. L'abonnement, c'est 65 € pour 22 numéros pour une année. Pour le recevoir, adressez-vous à France Arménie, 17 place de la Ferrandière à Lyon 3e. Téléphone 04 72 33 24 77. Dans le cadre du 90e anniversaire du génocide des Arméniens de 1915, perpétré par le gouvernement jeune turc, l'association APECL, le musée du génocide de Yerevan en Arménie et la ville de Lyon présentent Génocide arménien, premier génocide du XXe siècle. Cette exposition aura lieu sous la présidence d'honneur de Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon. C'est une expo exceptionnelle de 100 photos provenant du musée du génocide de Tizenagapest. Elle est présentée dans leur chronologie historique. Vous découvrirez des toiles et masques de Claude Chavouche, ainsi que la présentation de la maquette du mémorial lyonnais du génocide des Arméniens. L'inauguration aura lieu en présence de Jean-Michel Daclin, adjoint au rayonnement international, le mardi 31 mai à 18h30, avec la participation artistique de Lydia Mirjanian. Quant à l'exposition, elle se fera du mercredi 1er juin au mercredi 8 juin, de 10h à 19h, à la salle Edmond Locard, située 16 avenue Berthelot, à Lyon 7e. Participation aux frais par personne, 5 €. Le Cercle Lyonnais des Femmes Arméniennes organise la sortie annuelle de ses sympathisants le jeudi 23 juin prochain dans la Drôme Provençale. En passant par l'autoroute du Soleil, vous arriverez au château de Grignan où une visite est prévue, ainsi que celle d'une fabrique de nougat à Montélimar et une initiation aux arômes des vins du Tricastin. Le déjeuner se fera à Grignan. Pour ce départ, rendez-vous à l'église apostolique arménienne située 40 rue d'Arménie à 7h. Prix de la journée, 35 €. S'inscrire au secrétariat de l'église en téléphonant au 04 78 60 47 18.
Rencontre exceptionnelle avec le pasteur Krikor Agabaloglu de Turquie. L'Évangile, un message d'amour et d'espérance pour l'homme. Les rencontres publiques auront lieu à Décines, 7 rue Wilson, le mercredi 18 mai à 20h30, à Lyon, 4 rue Paul Didet, les jeudis 19 mai et vendredi 20 mai à 20h30, ainsi qu'une soirée jeunesse, le samedi 21 mai à 20h, 4 rue Paul Didet. Il sera aussi notre invité sur Radio Arménie. Le culte à Décines, dimanche 22 mai à 9h15 et à Lyon à 10h30.
La Croix Bleue des Arméniens de France, section Saint-Maurice de Bénaud et environ, organise une soirée projection sur l'Arménie historique, documentaire récent commenté par Madame Odette Magakian, dans lequel nous découvrirons les villes et villages traditionnels ainsi que les monastères bâtis par nos ancêtres. Ce document sera suivi d'un extrait vidéo des spectacles et des activités ludiques des élèves de l'école arménienne de Saint-Maurice de Bénaud. Alors rendez-vous le dimanche 22 mai à partir de 16h à la salle des fêtes de Saint-Maurice de Bénaud. Nous invitons tous les Arméniens de la région à venir partager le pot de l'amitié offert par la Croix-Bleue. Սիրելուն կլիներ միասին լսեցինք Մյունխենական հայտարարությունները, իսկ Մյունխենական հայտարարություններ գրքին հարաբուսան ծրագրում իհարկե կարող եք ընդգրել նաև ժամը 9:30 րոպեին։ Ողջույն, եթե նոր եք մեզ միացել, ժամը 8:39 րոպե։ Այժմ ինչպես հաղորդել էի, ձեր ընդգրկունությունը կներկայացնենք հարցազրույց, որը պատրաստել է մեր գործընկերը Ժան-Ժակ Կարագյուզյանը, իսկ հարցազրույցը պարոն Լիգեգոսի հետ է։
Radio Arménie vous propose une interview de Monsieur Ligueros.
Alors bonjour Monsieur Ligueros. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit de nombreux articles sur les génocides et les droits de l'homme. Alors vous êtes conseiller stratégique. Pouvez-vous nous expliquer exactement ce que c'est et ce que vous faites?
Il s'agit en fait de conseil en stratégie aussi bien au niveau de l'État chypriote que de l'État grec. Dans certaines parties qui représentent les ressources humaines, aussi bien au niveau national qu'au niveau militaire.
Vous travaillez pour un pays en particulier, pour un organisme?
Non, en fait je suis conseiller stratégique indépendant, simplement je travaille en particulier en ce moment en tout cas avec Chypre et la Grèce sur certains problèmes avec la Grèce au niveau de la police, et avec chiffres au niveau de la situation militaire avec l'occupation, comme vous savez.
Alors, puisque nous parlons de Chypre, je ne sais pas si vous savez, mais depuis 2-3 jours, il y a une polémique, étant donné que du côté Chypre-Turc, un monastère est occupé par les Turcs, un monastère arménien, et qui est transformé en bar, et qui aujourd'hui va être transformé en hôtel. Êtes-vous au courant de ce qui se passe?
Oui, je suis tout à fait au courant de ce genre de choses parce que on s'occupe spécifiquement de ça, de l'ensemble des églises qui sont enfin vandalisées d'une certaine manière, puisqu'en fait certaines sont transformées en étables, d'autres n'existent plus, et d'autres sont exploitées effectivement ou sous forme de bar ou alors sous forme de mosquée même.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au génocide puisque vous êtes plutôt orienté sur la Grèce et sur Chypre? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser
je suis orienté sur la Grèce et sur Chypre en ce moment. De façon générale, je m'intéresse aux droits de l'homme, donc je pense que le problème du génocide est quelque chose qui est un élément, je dirais, axiologique au niveau de ce combat. Ça permet de donner des références. Des fois, on se rend pas bien compte de la valeur d'un combat. Je crois que justement, le génocide fait partie de ces exceptions qui lui donnent cette valeur a priori. Donc, je pars du principe que un génocide peut s'expliquer par des circonstances aggravantes ou pas à certains moments de l'histoire de l'humanité. Le problème qui me concerne en l'occurrence, c'est le problème de la reconnaissance du génocide, car je pars du principe que ne pas reconnaître le génocide dans une période où qui n'est pas de trouble consiste à effectuer un deuxième génocide, une sorte de génocide de la mémoire.
Alors, quelle est à votre avis l'évolution d'une part du gouvernement turc vis-à-vis du génocide arménien et d'autre part de la société turque par rapport au génocide arménien?
Je pense pas en fait qu'il y a d'aspect schizophrénique. Tout se tient bien parce qu'il y a une structure militaire qui est bien en place, peu importe si Monsieur Erdogan a tendance à se montrer plus ou moins libéral. On voit bien que quand il s'agit de problèmes graves, on a un retour direct à l'envoyeur, c'est-à-dire on revient au niveau du régime militaire. En l'occurrence, on peut voir aussi que l'article 306 du code pénal turc dit, et d'ailleurs c'est le lien entre Chypre et même l'Arménie, puisque d'une part il est interdit de mentionner l'occupation de Chypre et d'autre part il est interdit de mentionner tout aspect qui est lié au génocide arménien. Et pas seulement le génocide arménien, et il y a une peine de prison encourue à cause de cet article 306, qui est quand même un article relativement récent, puisqu'il date de 2004. On n'a pas eu beaucoup d'écho en France. C'est assez malheureux. Alors heureusement que la communauté arménienne se préoccupe de ce genre d'articles qui apparaissent subrepticement au sein d'un code qui n'est pas toujours déontologique. Donc là, en l'occurrence, on voit bien que M. Erdogan tente petit à petit de glisser d'une position, disons, ultra-conservatrice, qui consiste à dire qu'il n'y a pas du tout de génocide arménien, et petit à petit, on voit apparaître une autre position qui, à mon avis, est plus vicieuse et plus dangereuse pour la cause arménienne, puisqu'il s'agit de transformer un problème qui concerne l'histoire en problème juridique, et voire un problème de spécialiste, puisque ça revient à remettre en cause indirectement, en disant qu'on est prêt à ouvrir les archives, et les gens se rendront compte qu'il n'y a pas que la population turque qui a commis un génocide.
Alors, comment peut-on traduire cette position? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un durcissement qui va aller beaucoup plus loin? Ou alors, est-ce que c'est un durcissement parce que, justement, ils sont acculés à devoir reconnaître le génocide et que, tôt ou tard, ils devront le reconnaître?
Disons que la deuxième version est la partie, je dirais, positive du point de vue. Je ne pense pas qu'elle soit encore ça. Je pense que la position est encore plus difficile. Ils sont effectivement acculés et il y a de plus en plus de pays, en particulier la communauté européenne, qui reconnaissent le génocide, même parmi les jeunes pays qui viennent de rentrer dans les 10 nouveaux. Le problème de la position turque, c'est qu'elle veut jouer sur deux tableaux, aussi bien au niveau de la communauté européenne, donc ça on rentre en liaison avec la constitution aussi, mais au niveau des Arméniens, elle veut montrer qu'en fait elle tient le haut, c'est-à-dire qu'elle voit les choses par le haut, donc elle veut pas simplement négocier. Parce que je vous rappelle que même le président arménien à un moment avait voulu avoir un entretien direct par rapport au problème du génocide qui avait été refusé, et maintenant on voit que la position turque a changé, entre guillemets, en proposant quelque chose, mais de toute façon je pars du principe qu'on ne peut pas négocier un génocide, il faut le reconnaître ou pas. Donc on ne peut pas simplement dire on va le reconnaître en partie ou le nombre de victimes n'est pas suffisant pour qu'on puisse utiliser la définition d'un génocide. Mais là, l'aspect le plus larvé, et on le voit aussi par les exemples, il y a une commission turque qui a changé les noms officiels même des animaux, puisqu'on avait un loup d'Arménie qui a été changé pour qu'il n'y ait plus aucune référence à un aspect arménien dans la terminologie turque. On voit bien que cette tendance larvée, qui est un peu plus diplomatique, sur le fond, est d'une certaine manière plus efficace et permet en fait à la Turquie de jouer un double jeu sans être agressé directement par les défenseurs des droits de l'homme. Il faut vraiment avoir des gens qui soient vraiment au courant de la position turque pour pouvoir être encore efficace et lutter contre ces tentatives indirect de négation du génocide.
Alors, que pensez-vous de l'élargissement de l'Europe à la Turquie?
C'est un vaste problème qui est directement relié aussi à la reconnaissance. On voit bien que quand on a une partie du territoire même arménien qui est occupée par la Turquie, les gens n'en parlent même pas. Je crois d'ailleurs que la plupart des Français ne sont même pas au courant. On voit bien que dans ces conditions-là, au niveau des droits de l'homme, des droits de la femme, du problème arménien, du problème chypriote, du problème kurde, de la transformation des frontières de l'Union européenne, puisque les frontières en fait de la Turquie seront les prochaines frontières de l'Union européenne si la Turquie venait à adhérer, tous ces problèmes ne sont pas réglés. Alors on voit bien qu'il y a un jeu diplomatique sur le fait de ne pas être totalement contre, puisque de toute manière, on fait traîner la candidature de la Turquie depuis un bon nombre d'années, puisque c'est l'État candidat le plus ancien. Malgré tout, on voit que par rapport au 3 octobre, les chefs d'État européens ont été relativement neutres par rapport à ces cas qui sont vraiment primordiaux sur le fait de commencer les négociations ou pas.
Alors, croyez-vous qu'avant le 3 octobre, la Turquie va reconnaître déjà Chypre? Et que va-t-il être de la reconnaissance du génocide arménien?
Vous allez voir que ma réponse elle va peut-être vous surprendre. Il est très possible que la Turquie reconnaisse Chypre. Le problème, c'est qu'est-ce que signifiera le mot Chypre? Parce que c'est toujours pareil. C'est pareil pour le génocide, je veux dire. Si la Turquie reconnaît le génocide et en même temps elle tente par tous les moyens de faire dire que les Arméniens ont eux aussi commis un génocide contre les Turcs, ça fait en fait une déformation du génocide. Donc là, ce qui se passe, en l'occurrence, il y a une différence sur les deux points de vue. C'est-à-dire qu'au niveau de la Turquie, on voit bien qu'il y a une tentative de reconnaissance de Chypre via l'introduction du plan NAT, des modifications apportées pour pouvoir dire qu'on reconnaît en même temps la partie nord, parce que vous voyez bien le problème, c'est si la Turquie reconnaît Chypre en l'état actuel, comme elle est dans l'Union européenne, alors on aura un problème par rapport à la partie nord qui existe de manière indépendante depuis 83 et qui n'est reconnue que par la Turquie. Ce serait de facto une non-reconnaissance de la partie nord. Donc là, ça pose un problème. Par contre, évidemment, s'il y a des accords qui sont mis en place, par exemple en se basant sur le plan Annan, ça permettrait à la Turquie de reconnaître une Chypre qui n'a rien à voir avec Chypre qui est rentrée dans l'Union européenne. Par ailleurs, au niveau du génocide, je pense que c'est complètement utopiste de penser que la Turquie va reconnaître le génocide arménien d'ici le 3 octobre, puisque on voit qu'elle continue à agresser même les nouveaux États membres de l'Union européenne qui viennent de reconnaître le génocide. Donc il n'y a pas une tendance qui se profile à l'horizon de ce type. Je crois au contraire qu'il y a une déformation du génocide qui risque d'arriver, et que si les gens ne sont pas actifs et énergiques par rapport au génocide arménien, on aura une tendance à le déformer et à parler petit à petit d'un génocide turc avec une forme de révisionnisme indirect.
Vous pensez que ça peut arriver, et que faut-il faire à ce moment-là pour pouvoir lutter contre ce
négatif? Je crois que ça va arriver inévitablement de parler d'un génocide à la Turque, parce que ça rentre dans la politique et dans la stratégie turque de déformer les formations, même a priori neutres et a priori historiques, puisqu'à priori même on ne peut pas reconnaître le génocide arménien, mais en Turquie tout est possible par rapport à ça. Ils sont capables de déformer même des choses qui sont données pour tout le monde. Donc ça va arriver. Le problème, c'est comment se préparer par rapport à ça et comment la situation doit évoluer de notre côté. Je pense qu'il faut le combiner aussi avec des recours au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, car ce qui est dommage, c'est que de façon générale, la communauté arménienne n'utilise pas les acquis de la communauté chypriote qui a permis de montrer qu'on peut faire des recours contre la Turquie et être remboursé même pour la non-jouissance de sa propriété, donc plus de 30 ans après. Et je pense que ça doit être fait de la même façon au niveau des Arméniens, même avant 1915. Car on a des recours analogues en Australie qui ont été jugés positivement et remboursés par l'Angleterre 200 ans après les crimes commis.
Donc, recours auprès de
la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, je crois que c'est la meilleure solution. Ce qu'on a préféré faire au niveau de Chypre, c'était organiser même une fondation, la fondation Altruismos, qui permettait d'aider les réfugiés à faire des recours pour avoir une pression économique afin d'avoir des résultats sur le plan éthique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'économie n'a pas d'éthique en soi, et elles ont raison. Simplement, l'économie peut servir de dynamique à l'éthique. C'est-à-dire qu'en faisant une telle pression par rapport au problème de la non-jouissance des droits de propriété, ça permet en fait d'avoir des résultats du type qu'on a eu avec Itina Loizidou, où la Turquie a été obligée de payer un demi-million de livres chypriotes pour la non-jouissance de droits de propriété, et en même temps d'être obligé en ce moment de racheter la maison pour pouvoir la donner à la propriétaire chypriote sans qu'on entre dans des conflits juridiques plus importants. Donc je crois que c'est vraiment une route qui renforcera, parce que c'est bien de reconnaître les droits de l'homme, mais en même temps il faut aller au-delà et montrer que à l'agresseur, au tortionnaire, qu'il y a un coût de violer les droits de l'homme. Et je crois que c'est simplement en combinant ça qu'on pourra montrer que la stratégie qui est en train d'être adoptée par la Turquie ne sera pas valable, parce qu'elle ne pourra pas lutter aussi sur le plan juridique par rapport au recours.
Alors, ma dernière question ce sera sur la Constitution européenne. Alors, pensez-vous que la Constitution telle qu'elle est proposée aujourd'hui va favoriser l'entrée de la Turquie?
Non, mais la Constitution telle qu'elle est proposée, a priori, n'a pas de lien direct, n'est pas directement corrélé avec le problème de la Turquie. Par contre, ce qui se passe, c'est que la Constitution renforce les structures européennes, permet d'avoir un noyau plus dur, qui fait que chaque nouvelle entrée, chaque nouvelle adhésion sera regardée avec plus de sévérité. Donc en l'occurrence, le fait de ratifier le traité de la Constitution européenne permet au contraire de durcir les entrées, en particulier les entrées qui vont avoir lieu après 2007, puisque bon, la Bulgarie et la Roumanie vont entrer automatiquement. Sans doute la Croatie va avoir le temps de rentrer elle aussi au même moment. Donc il s'agit précisément, le seul pays candidat en l'occurrence, c'est la Turquie qui vient ensuite. Et justement, la Constitution européenne va permettre de regarder avec plus de sévérité cette entrée. Parce qu'elle renforce aussi tout ce qui concerne les droits de l'homme, en particulier la partie 2 de la Constitution. Donc là, ça va être des points très très difficiles pour la partie turque à défendre, car on sait très bien que quand on parle de politique de... Quand nous, en tout cas en tant qu'Européens, on prône une politique de tolérance zéro par rapport à la torture... Et quand on vous répond du côté turc que la torture n'est pas systématique, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, ne serait-ce que sur ce plan.
Eh bien, je vous remercie, Monsieur Ligueros. On peut retrouver vos articles sur votre site, je crois.
Oui.
www.ligeros.org.
Voilà.
Et merci de nous avoir accordé quelques minutes. À bientôt.
C'est moi qui vous remercie pour tout le travail que vous faites pour la cause arménienne.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Լինում կնդիրներ միասին լսեցինք հարցազրույց, որը պատրաստել էր մեզ համար մեր գործընկեր Ժան-Ժակ Կարագյոզյանը. Հարցազրույցը պարոն Լիգեգոսի հետ էր. Ժամ 8:56 րոպե, ծրագիրը շարունակենք երաժշտական համարով, լսենք Ադիս Արմանդյանի կատարումներից, իսկ ժամ 9-ին կարող եք ընդգրել օրվանք ժամիկը.